Julia est une arme à feu. Un roseau fin et fragile qui plie mais ne rompt pas. Vim à la ponce et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Une arme fine et fragile, comme une lame qui plie sans rompre, un roseau de feu qui dévaste tout sur son passage. Telles sont les armoiries singulières de notre invitée de ce soir dans Mauvais Genre, Rebecca Warrior, co-animatrice des groupes Mansfield Tia, Sexy Sushi et Compromat, autrice de musique du récent film de Claire Burger, Langue étrangère, grande prêtresse des nuits queer européennes. Elle répondra aux questions de Céline Duchesnay, Bertrand Mandico et Esther Teillard, chronique érotique et velue en second temps d'émission Feu Extase à tous les étages, c'est maintenant sur France Culture. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre qui ce soir est heureux, fier et pas combien de recevoir Rebecca Warrior, bonsoir.
Bonsoir, c'est moi qui suis honorée.
Bah, tout le monde est honoré, donc partageons cet honneur et ce bonheur. Rebecca Warrior, tiens, on va faire un peu d'onomastique, comme on dit chez ma grand-mère. Rebecca, c'est la Bible ou c'est Hitchcock ?
C'est Mitch Silver, hein, c'est mon...
Ah bon, c'est ouais. Pas ni la Bible, ni Hitchcock, c'est pas la peine que je m'embête.
Non, non, vous embêtez pas avec ça. C'est mon acolyte de Sexy Sushi qui a choisi mon nom.
Très bien, pourquoi Rebecca ?
Aucune idée, il faut l'appeler.
Bon, on lui demandera. Bon, on va l'appeler. Et Warrior, bah, c'est...
Pareil, il a tout choisi.
C'est la vocation...
Je pense que ça, quand même, ça m'allait pas trop mal.
Bah oui, mais ça vous va toujours. On va en parler, bien évidemment, tout au long de cette émission. Mais avant cela, bien évidemment, prêtons oreille au portrait de Rebecca Warrior, signé Laurent Paul Rey.
Comme les femmes, elle me fascine. Et dans ce si beau, ce sont les flammes que j'ai allumées pour vous brûler, idiot.
Voilà le portrait de Rebecca Warrior signé Laurent Paul Rey. On entendra également Bertrand Mandico, bonsoir.
Bonsoir.
Pourquoi êtes-vous là ?
Pour le plaisir. Hein.
Pour le plaisir, bien très sûr. Bonne réponse. Mais également parce que vous avez signé un clip pour Rebecca Warrior et puis que...
Oui, 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 par amitié pour Rebecca et parce que j'adore tout ce qu'elle fait. Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir faire un clip pour Compromat. Donc Rebecca et Vitalik, un clip pour un morceau qui s'appelle Nimande. Et puis ensuite, toujours Compromat, voilà, j'ai eu la chance d'avoir le morceau Goût de cendre en générique de fin d'After Blue. Et puis plein d'autres choses à venir.
Eh ben, très bien, voilà un excellent programme. Et puis vous avez réservé une surprise à Rebecca Warrior, on verra laquelle en fin d'émission. Mais avant tout cela, présentation de notre invité par Céline Duchesnay, grâce à qui d'ailleurs on a le plaisir de recevoir ce soir Rebecca.
On peut peut-être juste ajouter une petite chose aussi sur ce fameux clip, c'est que dans le clip que vous avez fait, Bertrand Mandicot, apparaît Christophe Beer et Elina Lovenson aussi, ce qui fait que c'est une grande famille que nous faisons tous, peut-être qu'on
Absolument.
Pourrait dire ça.
Tout à fait.
En tout cas, pour les auditrices et les auditeurs qui ne connaissent pas encore Rebecca Warrior, on peut peut-être juste redire qu'elle est donc compositrice, chanteuse, autrice, productrice, DJ, qu'elle est née à Saint-Nazaire, qu'elle a fait les Beaux-Arts de Nantes et que sa spécialité à l'époque, c'était pas tout à fait encore le son, mais plutôt la peinture. Et alors, on m'a dit que pendant toutes ces années aux Beaux-Arts, vous avez peigné, en tout cas peint, pardon, vous avez peint le même paysage de montagne pendant des années, jusqu'à ce que vous arrêtiez un jour pour vous consacrer peut-être un peu plus au son. En tout cas, en parallèle des Beaux-Arts, il y a déjà la musique, déjà du studio, la musique, je crois qu'aussi les grandes tendances musicales de l'époque, c'est plutôt donc du gabber, ce qui est une sorte de gros son techno, hardcore. Est-ce que ça allait avec les Bunkers de Saint-Nazaire? Je ne sais pas. Vous avez même été enseignante en art plastique pendant un an, mais ça, c'était la vie d'avant, parce qu'aujourd'hui, c'est le son, je crois, 100%. Je ne crois pas que vous continuez à
persévérer
dans la peinture de la montagne. Et ce qui vous caractérise, c'est vraiment le principe du duo, comme si tous ces duos vous permettaient d'explorer toutes vos univers intérieurs, et on va voir lesquels lors de cette émission. Donc il y a Mansfield, vous êtes la moitié de Mansfield Tia, la moitié de Sexy Sushi, la moitié de Compromat. Vous composez aussi pour le théâtre, pour le cinéma, vous continuez à entrer en transe en tant que DJ, à faire entrer les autres aussi en transe. Et puis, en 2020, vous avez cofondé Warrior Records, qui est votre label queer et féministe, une sorte de maison dans laquelle vous accueillez du beau monde. Donc voilà, en quelques phrases, une sorte de portrait, je dirais presque un peu robot, de Rebecca Warrior, mais on va voir un peu plus en finesse et en douceur. De quoi il s'agit, François, et de qui il s'agit?
Alors, réponse face à ce,
merci,
ce
c'est portrait, un beau portrait,
Rebecca.
Mais, les grandes lignes sont là. En tout cas, je m'y reconnais pas mal. Effectivement, de la peinture dans laquelle je n'ai pas persévéré parce que je régressais. Du gabber, mais aussi beaucoup de hardcore, hein, parce que c'est mes bases, c'est mes fondations, avec le post-punk, le BM, donc l'electronic body music. Et puis voilà, vous avez dit le reste, hein, je pense que c'est assez bien fait.
Donc on va aller, on va explorer, François.
Oui, on va explorer, on va découper, si j'ose, c'est pas l'expression vaut ce qu'elle vaut. On a réparti l'émission en trois, avec les trois formations donc, à laquelle vous participez, donc Mansfield Tia, Sexy Sushi et Compromat. Et on va écouter une première composition liée donc à Mansfield Tia, qui s'appelle Palais Noir.
Je n'ai pas d'état d'âme, je vis dans le palais noir. Enfermé depuis la nuit des temps dans un épais brouillard. Cette ombre qui m'attend en forme de loup blanc. Et le serveur du palais où mes jours je finirai.
Palais Noir, Mansfield Tia, Rebecca Warrior. Alors, c'est quand même là, on va pas, les choses se découpent pas simplement comme des wagons de chemin de fer qu'on met les uns après les autres, puisque les trois formations que j'évoquais ont duré en même temps, enfin se sont chevauchées.
Ouais, Mansfield Tia et Sexy Sushi, c'était exactement les mêmes périodes.
Voilà, absolument. Mais néanmoins, il y a des caractéristiques et il y a des harmoniques, des tonalités particulières. Et Mansfield Tia, il y a quand même quelque chose de mélancolie littorale. Enfin, je ne veux pas faire le côté de blues nantais ou de tristesse de Saint-Nazaire avec ses bunkers et son port de sous-marin. Mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, plus des cordes, de la rêverie, de l'ordre de la mélancolie romantique que les autres moments
de Rebecca Warrior. Oui, c'est vrai. Bon, c'est aussi, comme vous l'avez dit, je fais beaucoup de duos, donc il y a aussi beaucoup de l'autre personne. Là, en l'occurrence, Mansfield Tia, c'est avec Carla Pallone. Et c'est vrai qu'elle est une violoniste et ensemble, en fait, on aime le romantisme, la poésie, la littérature. Donc on s'est engouffré dans cette voie, quoi, toutes les deux. Et c'est vrai que c'est des... Mais après, Palais Noir, c'est rigolo d'avoir choisi celle-là, parce que je pense que c'est une des plus énergiques et violentes de Mansfield Tia, alors qu'on a fait beaucoup de choses qui sont très, très douces, très calmes.
Et pour oublier, je dors, est inspiré du vin de l'assassin de Baudelaire. Donc, il y a quand même tout un arrière-plan romantique noir.
Oui. Et puis aussi, j'ai commencé Mansfield Tia. On a commencé Mansfield Tia. Moi, j'avais une vingtaine d'années, je pense. Donc, j'étais encore un peu... Je commençais à lire des choses de poésie. Donc, je me cherchais aussi énormément. Et à cette période-là, j'avais besoin de creuser des sillons de littérature classique.
Vos poètes, c'était plutôt Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. En fait, j'ai commencé à chanter la poésie en chantant les titres des autres. Et puis après, ça m'a fait découvrir la littérature, etc. Quoi. J'ai cheminé un peu comme ça, quoi. Donc, et pour la petite histoire, pour oublier, je dors, je commence par dire mon livre de Victor Sandler, Calvin Klein. Et c'est parce que j'étais effectivement partie en Erasmus et ma bouteille de parfum s'était renversée sur mon livre que j'avais emmené, donc un bon gros Victor Hugo.
Voilà. Et donc, quand vous sentez le Calvin Klein, ça vous fait penser à Victor Hugo. C'est le contraire qui peut également...
Exactement. Produire. Voilà, les deux s'imbriquent.
Céline.
Alors du coup, je me demandais comment est-ce que vous composez par exemple Palais Noir là. Est-ce que c'est les mots qui viennent en premier? Est-ce que vous avez un principe par exemple de petit carnet où vous notez plein de choses et puis à un moment donné vous vous dites ça y est, je vais commencer à écrire. Comment se fabrique une chanson et peut-être celle-ci en l'occurrence?
Des chansons, il n'y a pas vraiment de système, et c'est ça qui est assez beau, c'est-à-dire que dès qu'on a trouvé un système, il faut absolument pas le refaire, parce que ça marche moins bien la deuxième fois, donc il faut toujours se réinventer. Et effectivement, moi j'écris énormément, un peu comme on fait du sport, enfin c'est un exercice quotidien, quoi, j'écris tous les jours dans mes carnets. Et puis après, je vais rechercher dans mes carnets les idées et je les remets en forme. Et puis, des fois, la musique d'abord, des fois, une idée de Carla, des fois, une idée de moi, des fois, une idée que je vais voler à quelqu'un d'autre, j'avoue. Et voilà, donc il n'y a pas forcément de système. Et ce morceau-là en particulier, aucune idée. C'est trop loin, je ne saurais pas vous dire.
Mais dans ces carnets, par exemple, est-ce que ce sont plutôt une sorte de journal intime avec des impressions? Ou alors est-ce que c'est comme Bertrand Mandicot qui a des carnets tout dessinés avec aussi bien des...
Il a
des carnets aussi, c'est incroyable.
Il y a de tout, ouais. Il y a aussi des dessins, il y a des croquis, il y a des notes sur les films que j'ai vus, les livres que j'ai lu, les choses qui m'ont intéressée, beaucoup de rêves aussi, des idées, des choses que je chope de gens qui racontent dans la rue, des conversations. Donc c'est vraiment foutraque. Et c'est important que ça le soit. Ouais.
Et ça reste quand même le cœur ou en tout cas...
C'est la matière première. Hein. Ouais. On ressort. En général, j'ai un an de décalage, c'est-à-dire j'écris dans les carnets et puis un an après, quand je dois faire une création, je vais ressortir le carnet de l'année d'avant, quoi.
Mais toutes tes chansons, tout groupe confondu, appellent les images.
C'est toi qui parles.
Oui, mais non. Mais ça appelle les images. C'est-à-dire que quel que soit le groupe, à chaque fois, c'est un voyage. Et pour moi, qui est très proche du film, de la matière cinématographique. Alors, est-ce que toi, quand tu travailles, quand tu composes tes chansons, tu as des visions?
Ah, c'est rigolo. Moi, j'en ai pas, non. Moi, c'est vraiment... je pense que je suis assez peu visuelle. Donc, Je me concentre vraiment sur l'audition et sur la musique. Et ensuite, c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai aimé faire appel à toi, parce que j'ai pas d'idées, mes idées, elles se transforment pas en images. Ce serait inaccessible pour moi d'être photographe ou d'être vidéaste. Impossible.
Mais alors, elle se transforme en son, elle se transforme
ouais,
en
voilà.
Faut elles bien que l'idée, elle s'incarne dans quelque chose.
Ouais, elles se transforment en son, elles sont chantantes, puis je peux avoir des... c'est des rêveries mentales, mais je saurais pas le mettre en image, elles s'expriment plutôt par des mélodies, ouais.
Oui, parce que pourtant, quand on regarde certains titres, bon, pour oublier Je dors, bon, ça peut être un climat mental et un état d'être, mais Palais Noir, ça fait référence quand même à l'élément visuel. Et puis les filles mortes, les pommes volantes aussi.
Les pommes volantes. Alors les pommes volantes, c'est un peu à part. Je sais pas si vous vous rappelez de cette émission Mystère.
Oui.
Sur, je crois que c'était TF1. C'était une émission où, en fait, quelqu'un disait « Oui, moi, chez moi, il se passe des trucs bizarres, j'entends des pommes et tout. » Et là, il remettait en image quelqu'un, on voyait marcher une vieille dame, il y avait des pommes, il devait balancer des pommes. « Ah, coupé !» Et il faisait une émission qui faisait un peu peur, comme ça, un peu mystique. Et moi, j'ai repris pour les pommes volantes, j'ai repris cette émission-là et je l'ai redécoupée. Mais c'est une des rares où je suis partie du clip pour écrire le morceau. Donc je suis repartie de l'émission Mystère, j'ai tout redécoupé et puis j'ai écrit la chanson avec ce que je voyais. Donc à un moment je dis les torchons et les serviettes virevoltent dans l'air, parce qu'ils avaient fait virevolter des torchons. Voilà.
Il y a tout de même dans ce groupe, alors peut-être que je dis ça justement parce que Sexy Sushi a une autre énergie, on en parlera dans quelques minutes, mais qui cette atmosphère dont parlait François, qui est très mélancolique, est-ce que c'est aussi une partie de vous-même? Est-ce qu'il y a une partie de Rebecca Warrior qui...
Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que j'ai un peu scindé en plusieurs parties, c'est-à-dire que ce qui était plus de l'ordre de la mélancolie, je l'ai plus volontiers mis dans Mansfield. Et puis, j'ai plus volontiers mis les sentiments de la colère, etc. dans Sexy Sushi. Mais en moi, c'est absolument tout mélangé. Mais je dis souvent qu'il y a plusieurs petites personnes à l'intérieur. Et il faut que tout le monde ait son temps de parole.
Alors, Mansfield, vous n'allez pas nous faire la même réponse. Tia, ça, je vous abandonne Tia. Mais Mansfield... C'est inspiré, enfin c'est la source, c'est Anaïs Nin, c'est oui. Le nom de la première égérie d'Henry Miller.
Ouais, voilà.
Alors,
ils avaient
comment,
un threesome.
Parlez-nous justement, moi ça m'intéresse toujours beaucoup les noms de groupes, alors parlez-nous un peu pourquoi cette femme, parce qu'effectivement, j'ai ce lointain souvenir, mais je vais les relire bientôt du journal d'Anaïs Nin, qui est enfin disponible en version non censurée, et effectivement il y a tout ce couple à trois un peu avec les Miller, et notamment ça, il y avait June, qui est
une
dégérie d'Henry Miller, et Mansfield alors.
Mais c'est June Mansfield.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça. C'était cette troisième, donc Henry Miller et Anaïs Nin écrivait, et puis il y avait au milieu June Mansfield qui était la muse des deux. Et moi, quand j'ai lu le journal d'Anaïs Nin, j'étais assez jeune et j'avais pas trop conscience qu'on pouvait être lesbienne. Et puis tout d'un coup, je lis ça et je vois que Anaïs Nin, elle a des sentiments forts pour June Mansfield. Et donc ça m'a hyper troublée. Et puis je me suis dit, mais c'est génial. En plus, c'est génial parce que déjà c'est possible. Je m'étais pas dit que c'était possible avant, voyez-vous. Et puis ensuite, je me suis dit que c'était aussi un bel hommage d'appeler le groupe comme ça, parce que personne ne s'est jamais intéressé à June Mansfield quelque part, alors qu'elle est, la source de tous ses écrits.
20 ans plus tard, ça aurait pu s'appeler Mireille Havé.
Ouais.
Par exemple.
Why not?
Céline.
En parallèle à toutes ces activités donc de chanteuse, il y a aussi le fait d'être DJ. Et alors, je vous ai jamais vu, moi, mais j'ai vu des images. Et j'aimerais bien aussi vous interroger sur cet état dans lequel on peut être, quand on écoute de la musique telle que vous la faites écouter, cet état de transe qu'on voit dans le public et qu'on voit... Vous aussi, dans votre manière de danser, parce que vous avez une manière de danser, on a l'impression que vous décollez à un moment donné et que vous êtes ailleurs. Est-ce que ce sont des moments, est-ce que ce sont des moments importants pour vous? Est-ce que ça fait partie de ces différentes petites personnes qu'il y a en vous, décolle?
Surtout, j'ai commencé à être DJ à un moment où j'arrivais plus du tout à créer. J'étais trop mal, donc j'arrivais pas à créer pour moi-même. Et donc c'est un moment où je me suis plongée un peu dans l'histoire de la musique et puis dans la musique des autres. Et ça m'a fait, ça m'a ressourcée énormément. Donc j'ai commencé à mixer parce que j'écoutais plein de trucs. Et donc je me suis dit, tiens, c'est un bel hommage de passer les autres. Et puis effectivement, il y a ce côté, cet exutoire des DJ sets qui est vraiment génial. Moi, j'aime bien des DJ sets qui sont assez évolutifs, où on part plutôt de la cold wave, d'une musique un peu mélancolique, donc toujours. Et puis où on arrive à vraiment quelque chose d'ultra violent et on est le public est censé avec moi se mettre en transe, se mettre en route pour un, parce que je raconte un vrai truc quoi. Voilà, et après je décolle sans doute, ouais. Pas toute seule, j'espère.
Il n'y a pas de DJ mélancolique.
Oh si, il y en a plein. Après, moi j'adore aussi les événements genre les siestes électroniques, etc. où on peut être DJ mais passer des choses très douces, de l'ambiante.
Ah, c'est des séances de méditation.
Ouais, voilà. Ouais. Pour moi, être DJ, c'est vraiment pas forcément... c'est aussi la danse et c'est génial quand c'est ça, mais ça peut aussi être vraiment... de l'ambiance, des moments planants, ça peut être un peu de tout, quoi. Même DJ classique. Hein. Ça veut dire ça, en Italie, pardon.
Quand on écoute Mansfield Tia, on pense plutôt à des rêveries solitaires, des déambulations solitaires dans des palais noirs. On pense pas tellement à des espèces de séances de transe. Mais vous dites que le DJ raconte une histoire, donc a quasiment un début, une fin. Il y a un rituel. Comment vous, est-ce que vous composez une soirée comme ça? Je ne vais pas vous faire le coup de la messe noire ou de la messe rouge, quoique.
Si, bah c'est quand même des messes païennes.
Voilà, allons-y.
Ouais, les DJ sets, on se retrouve, c'est très ritualisé. On a aussi envie et besoin de faire ça à l'heure actuelle. Donc, on se retrouve tous. Il y a bien une raison, quoi. On vient communier ensemble.
Mais une messe païenne, ça va où? Parce que bon, la messe pas païenne, on sait où ça va, la communion c'est réglé. La messe païenne, ça va où et ça veut dire quoi?
Je pense que moi je l'entends au sens rassemblement des corps et des âmes, et où on est tous ensemble pour, c'est un nouveau mythe,
quelque part. Créer une mythologie sociale.
Ouais.
Ce qui vous rapprocherait plutôt de Berruyer Noir et de François Guimou, avec qui vous avez composé un morceau.
Avec plaisir.
Je passe la parole à Céline.
Au sujet des Berruyer Noir.
Bah oui, puisqu'on a récemment, sommes allés à Lyon rencontrer
Fanfan,
voilà, et avec lesquels on a refait l'histoire des Berruyer Noir et on a fini par se retrouver du côté de Saïgon et de voilà. Mais là, il y a quand même un pont intéressant de génération, de musique et d'idéal social.
Presque. Oui, tout à fait, parce que je crois même de mémoire qu'il nous avait parlé de vous comme une sorte de petite sœur, je crois.
Et ah oui,
il vous a d'ailleurs fait un sacré cadeau.
Ouais, il m'a offert sa boîte à rythme, la boîte à rythme des Berrues, la DRM16.
Et que vous allez utiliser, je crois, dans l'album qui est en fabrication, qui va bientôt sortir.
Ouais, il est dans Compromat. Je l'utilise très souvent depuis qu'il m'a offert. Ouais. Et c'est vrai que je le vois aussi comme un grand frère. Il m'a montré un chemin. Moi, quand j'étais ado, j'ai beaucoup écouté sa musique et ça m'a donné envie d'en faire.
Et ce principe de partir justement de cette boîte pour composer de ce rythme, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans... Alors peut-être plus Sexy Sushi que Mansfield Tia.
C'est pour dans quelques minutes, mais avant il y a une question de Laurent Polleret qui ne perd pas une seconde de ce que l'on dit et qui m'interroge sur justement vos influences et notamment la Cold Wave. Quel groupe, quel type d'artiste?
J'en ai écouté énormément, j'écoute toujours énormément de Cold Wave, mais je pense que j'ai commencé à écouter les Cure en fait quand j'étais ado, et j'ai jamais cessé de les écouter, et puis j'ai eu un grand moment de joie et de consécration quand j'ai joué avec eux, avec Compromat, il y a 4 ans, 5 ans, donc j'étais la plus heureuse.
Mais Alan Vega,
Suicide,
c'est quand même...
Suicide, c'est...
C'est à l'origine de...
Autre duo, d'ailleurs.
Ouais, ouais, c'est vraiment... Moi, je trouve d'ailleurs qu'à chaque fois qu'on refait un... Quand on refait un morceau de Compromat, on réécoute... Moi, je réécoute énormément Alan Vega, je réécoute énormément Suicide à chaque fois, quoi. Parce que, bon, c'est quand même l'utilisation de la delay, et je...
C'est vous écoutez Indochine aussi?
Ouais, à fond, j'adore Indochine, ouais.
Bob Moran.
Ouais. Et tous ces groupes-là, DAF aussi. Bon, DAF, après, c'est peut-être plus le BM, mais ça fait partie de...
Et des groupes comme les Stooges, Première Manière, il y a bien longtemps, l'époque des frères Asheton.
Alors j'ai moins écouté, moi, ça, parce que...
Parce que là, sur la question de la trance et du...
Ouais, mais...
De l'arc lombaire...
J'étais vraiment cette génération qui a... J'ai apprécié le moment où, en fait, on est passé des guitares aux boîtes à rythme. Donc toute cette période où on commence vraiment à utiliser un peu l'électronique, mais on ne sait pas très bien s'en servir, ou alors les boîtes à rythme ne sont pas vraiment bien rythmiques. Et ce moment un peu fluctuant... De l'électro, c'est moi le moment que j'adore, quoi.
Donc Pile, par exemple.
Comment ça?
Pile.
Pile. Pile, le groupe, un groupe qui s'appelle Pile.
Oui.
Je le connais
Public,
pas.
Public.
Public Image, l'ai. Ouais.
Oui.
Ah, mais c'est vieux, ça.
Et parce que c'est ça, c'est le passage des Sex Pistols, tout d'un coup, la musique électronique.
Exactement.
Love Song.
Ouais.
Je pensais que ça faisait partie vraiment de tes influences.
Pile ?
Ouais.
Eh ben écoute, non, mais il n'est pas trop tard. Hein. Je vais aller l'écouter dès en rentrant. Vite, Pile !
Alors, en attendant d'écouter Pile, Esther Teilhard.
Moi, je trouve que vous avez un côté Barbara aussi. Un énorme côté Barbara.
Ah bon ?
Ouais.
Bah, c'est mes vestes noires, c'est pour ça.
Ouais, et la voix de bonbon un peu là.
Bah, j'aime beaucoup Barbara, donc ça me fait plaisir.
Et Noir Boy George aussi.
Oui, bien beaucoup. Sûr. J'adore Noir Boy George.
Ça me fait beaucoup penser à ce que vous faites.
Alors, on va délaisser la mélancolie littorale et puis les rêveries romantiques de Mansfield Tia. Et puis, on va s'intéresser maintenant, Céline, à Sexy Sushi avec un morceau
qui est notre morceau préféré, voilà, François, on peut le dire.
Qui est quand même classique maintenant. Sexy Sushi, Céline.
Eh bien, je crois que tout est dit dans Sexy Sushi, introduction. Donc là, on est peut-être avec la Rebecca Warrior plus sexy.
Oh, la vilaine.
Sexy.
Ouais, on est avec la vilaine.
La vilaine.
Alors, la vilaine ressemble à quoi?
Bah, vous voyez, à ça, là, elle cherche les problèmes.
Elle les trouve?
Oh oui, elle les a beaucoup trouvés à l'époque de Sexy Sushi.
On sait que ce pile, il y a un hommage à la police nationale en sa part féminine.
Oui, mais alors c'est une vraie histoire. Hein.
À raconter?
Eh bien, en fait, j'étais en auto et j'étais perdue dans le sud de la France. Et voilà.
Mais plus perdue dans le sud de la France.
J'étais à un rond-point, il faisait très chaud, j'avais la fenêtre ouverte. Et là, il y a une petite keuf qui s'approche de moi et qui vraiment met ses seins sur la portière et qui me demande si elle peut m'aider. Alors bon, j'étais hyper gênée. Donc je lui ai dit non, mais j'ai inventé le reste de l'histoire en me disant merde, j'aurais dû dire oui.
J'aurais dû dire oui, ça aurait été là.
Bon, j'en ai fait une chanson, mais c'est vrai que c'est une histoire vraie. Enfin, À moitié vrai, du coup.
Alors, c'est un début d'histoire.
C'est le début, ouais.
Sexy Sushi, le nom vient de... C'est qui, le nom là,
alors, le nom, il y a un litige. Ah. Mitch dit que c'est de lui, moi je dis que c'est de moi, et notre manageuse dit que c'est d'elle.
Et c'est de qui? Et on ne saura jamais de...
On ne saura jamais.
De qui c'est. Alors là, on
mais je pense que c'est de moi.
Bon, bah, pour ce soir, c'est vous. Au moins pendant la durée de l'émission. Alors Céline, là, on est dans une veine qui n'est pas du tout mélancolique.
Qui est peut-être un peu plus du côté justement des Berruriers Noirs dont on parlait tout à l'heure, avec une sorte de tradition punk. Est-ce que c'est de l'électro-trash ou du techno-punk? Bien que cette chanson qu'on vient d'entendre n'est pas la plus punk qui soit, je pense, en termes de mélodie. Mais ce qui est assez frappant avec cette période de Sexy Sushi, c'est, je crois, surtout la scène et le côté vraiment performance. Mmh. Le fait que vous arriviez à chaque fois avec des grosses lunettes fumées, avec une perruque, et que en concert, tout pouvait arriver.
Incontrôlable. Ah ouais.
Donc là, qu'est-ce qui est arrivé ? Vous pouvez vous mettre à moitié nu, vous pouvez cracher sur les gens.
À moitié ?
Et même totalement.
Totalement.
Totalement nu, m'a-t-on dit.
Ah oui, c'est passé des choses extravagantes, c'est vrai.
Parlez-nous, la messe païenne, la transe, l'offrande du corps.
Là, on a bien offert. Hein. On a fait slammer des canapés, on a suspendu des cochons.
Oui, alors restons sur le cochon.
Ah, le cochon.
Si j'ose dire, parce que j'ai lu l'article où c'est raconté, c'est donc dans un festival en Bretagne, vous félicitez Nolwenn d'avoir été la lauréate.
Vous le ressortez, vous allez me réapporter des problèmes.
De Rolls, et vous montrez avec un geste ample et distingué.
J'ai dit qu'on avait une invitée, ouais, qui
Et il y a un cochon qui est pendu dans un coin de la scène.
C'est horrible, hein, quand on y repense.
Pour le cochon ou pour Nolwenn?
Pour les deux. Je le referai pas.
On referait pas. Mais là on est Rebecca Warrior. Là, on n'est plus effectivement dans les cordes. On n'est plus sur la plage.
Ah non, on n'a plus le contrôle.
On est chez les actionnistes viennois. On est chez Antonin Artaud avec le théâtre et son double. Mm-hmm. On est chez Reiser et Vuillemin. Là, c'est une autre veine puisque tout a lieu un peu en même temps. Alors, c'est quoi là? Vous actionnez un autre filon. Comment ça fonctionne?
Oui, bah au début, en fait, il fallait que je mette la perruque pour vraiment passer d'un personnage à l'autre. Puis, bon, très rapidement, j'avais juste appuyé on off et ça se faisait très bien, quoi, mais c'est vrai que c'était bénéfique, quoi. J'avais un exutoire et ça me faisait énormément de bien. Et en fait, c'était pas tellement de la violence, mais plutôt de la folie. Genre, tout était permis. Et ça, c'est les possibles étaient absolument géniaux. Donc, le public était aussi dans un espace de liberté complètement dingue. Donc, moi, je faisais n'importe quoi, Mitch aussi faisait n'importe quoi, mais le public était autorisé à faire n'importe quoi. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'inconnus.
Et l'inconnu Céline. Aussi qu'il y avait lors de ces concerts, c'était cette fameuse roue de l'infortune qui dictait l'ordre des chansons. Et dans cette roue, il y avait quand même une case qui était quand même plutôt piégeuse, puisque c'était une case banqueroute. Et quand on tombait dessus, à tout moment, le concert pouvait s'arrêter. Et il y a même une fois où la première fois, vous avez fait tourner la roue de l'infortune, et bien là, vraiment infortune totale, puisque vous êtes tombé directement sur banqueroute et vous n'avez pas fait votre concert.
Bah oui, c'était le risque.
C'était la
règle.
Mais
là, en fait, moi, j'attendais du public qu'ils se révoltent, qu'ils disent « Non, on veut quand même un concert ». Donc, je sais que la première fois que c'est arrivé, ils ne se sont pas révoltés, donc il n'y a pas eu le concert. Après, ils ont compris que, voilà, il fallait piper les dés et tout se passait bien. Mais le problème, c'était pas tellement banqueroute, c'était plus de refaire tout le temps le même morceau, parce que la roue était pas droite, et du coup, c'était toujours le même morceau, et c'était saoulant. Un concert avec 15 fois le même titre, c'est pénible. Même moi, j'en avais marre.
Alors, Sexy Sushi, il y a plusieurs albums, évidemment, dont Mar, il y a Sex Appeal qu'on vient d'entendre. Puis là, il y a un autre titre sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est Hibernatus, parce que vous êtes une fan du film avec Louis de Funès.
Ouais, j'adore ce film.
Alors ?
Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais...
Vous êtes une fan de Louis de Funès aussi ?
Non, de ce film, ouais. De Hibernatus.
Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans cette...
C'est hyper... Il y a une histoire où il revient dans... il a été congelé et puis on le décongèle des années plus tard. Donc c'est hyper cocasse. Mmh. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est la cocasserie.
Esther.
Non, moi je me demandais, Jean-Pierre Pernaut est mort.
Non, attendez.
C'est une chanson. Au pouvoir, donc je me demande. Enfin, le monde a changé, évidemment.
Le monde a changé.
Et je me demandais qu'est-ce qui vous reste de Sexy Sushi maintenant.
Bah, il me reste que là, quand Rachida est redevenue ministre, en fait, il y a eu énormément d'écoutes. Il y a eu 1 million d'écoutes.
Ouais. C'est
donc, pour moi, ça fait de l'argent, quoi, surtout.
Mmh. Voilà. Ah bah tant mieux.
Ouais.
Si elle te voit, il me reste de l'argent, j'en suis ravie.
Il me reste toujours ça.
Parce qu'il faut dire que ça correspond à deux titres de chansons, en fait. Regarder Rachida et Meur, 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 Jean-Pierre Pernaut.
Ah oui, oui.
Qui sont deux titres de Sexy Sushi.
Problématique.
Et des prémonitions.
J'espère pas. Alors, j'espère que c'est pas moi qui crée tout ça.
Un peu enjambé le temps, on va écouter un morceau produit par Warrior Records. Donc c'est votre propre maison. Mm-hmm. Vous allez nous expliquer d'ailleurs le symbole qui sert de, comment dirais-je, d'emblème à Warrior Records. Et on va écouter la composition que vous avez faite avec Lio, les démons de Dorothy.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
On t'a encore parlé de gros nichons, c'est un, une obsession mammaire assez solide.
Ouais, j'adore votre, ça. Ouais. Ouais. J'adore ce thème, je veux dire.
Mais alors, la présence de Lio, qui peut sembler un peu incongrue, ne l'est pas du tout, pas du tout, du tout, du tout, puisque effectivement, si mes souvenirs sont bons et si on se repasse mentalement ces grands tubes des années, début des années 80, fin des années 70, il y a des choses musicalement, ça résonne un peu.
Ah oui, moi j'ai toujours adoré.
Banana Split, les brunes comptent pas pour des prunes.
Que des tubes, très 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 fan. Mais c'est pas moi qui suis à l'origine de cette collab, c'est Alexis Langlois qui a écrit un film avec Lio et qui m'a proposé de collaborer. Mais j'étais évidemment la plus heureuse.
Céline.
Bah, moi je repensais un petit peu à quelques titres qui pourraient donner une sorte de tonalité ou d'ambiance de cette époque-là, enfin de l'époque Sexy Sushi qui est aussi la même époque que Mansfield Tia, mais en tout cas par exemple il y a un titre d'album, Caca, un autre, Mar Mar Mar, un autre, Défonce ton ampli, qu'est-ce que je vois en termes de titres, Je ne veux pas d'un homme à petite bite, L'hôtesse mal baisée, J'aime mon chenil, La baisse chantée...
C'est des faux titres en fait.
Oui.
Des faux titres.
Ouais, c'est des faux titres parce que en fait on faisait croire qu'on sortait des albums, mais on les a jamais sortis.
Ah oui, c'est des albums qui n'existent pas.
Non, c'est des
j'ai cherché Caca pendant un certain temps,
mais
j'ai pas trouvé.
Mais
d'accord.
Non, vous pouvez pas le trouver. C'était à l'époque de MySpace en fait. On faisait n'importe quoi. On disait ouais, on a sorti un album, mais ça s'appelle comme ça. Et puis en fait, on sortait rien du tout.
Mais l'idée, c'était de quand même jouer avec ce côté, je dirais aussi bien la rage que la provocation, que les paroles crues, que.
Ouais, c'était vraiment, on s'amusait bien quoi.
Oui, des titres graffiti.
Ouais. Puis comme ça nous permettait de faire des pochettes et c'était assez fun.
Alors Bertrand Mandicot est venu avec, pas sous le bras, mais dans une clé, quelque chose qui est une sorte de cadeau, de dédicace.
Alors je vais faire de la science-fiction en direct. Nous sommes en 2080, Rebecca Warrior n'est plus. Le monde de la musique perd sa plus précieuse fille à 102 ans. Les oreilles perdent leur enchanteresse, les pieds leur entraîneuse et les esprits libres perdent leur plus précieux toboggan. Quant au pisse-vinaigre, ils perdent leur mère, celle qui sut transformer tout au long de sa carrière les toxines du monde en acides hallucinogènes. Rebecca Warrior, donc, vient de passer la larme à gauche. Sous son œil plissé par les années, le romantisme et l'ironie débridés. Chef de la résiste danse, adulé dans des caves radieuses par des oreilles aujourd'hui orphelines. Celle de tes sœurs, libres et rebelles, qui en ta mémoire se roulent des pelles et sniffent tes cendres guerrières. Alors je dis, entre ici Rebecca, entre ici Julia, avec ton cortège carnavalesque, sexy sushi compromate mensuel tia. C'est le panthéon sur les chevilles que les cœurs t'accueillent. Hibernatus n'est pas loin, toujours sur toi je crois. Et glisse, glisse sur la chaîne tes musiques et tes mots qui redresseront dans leur raide sommeil tes morts, les morts, nos morts. Car qui d'autre que toi, Rebecca, Orphée du nos futurs, ramènera les Eurydice Sphinx sur nos horizons perdus dans un dernier chant d'amour.
Voilà la nécrologie des feintes à 102 ans de Rebecca Warrior, signée Bertrand. Vous vous prenez souvent pour André Malraux, Bertrand? Parce que là, il y a quand même une citation.
Ben, l'occasion fait le larron, si j'ose dire.
Alors, Rebecca, réaction à cet hommage.
Je suis touchée, j'ai vraiment bien
Hibernatus.
je vais le garder, tu l'as écrit? Ouais, je vais le garder, parce que bon, comme ça, vous saurez quoi dire quand je vais vraiment mourir. Bon, on le réutilisera.
Non, il n'y a rien de presse.
Il y a Orphée aussi qui est derrière tout ça, hein, puisque c'est ton film favori,
ouais.
On partage ce
on
film.
On partage un même film favori, ouais. Ouais.
Donc ce rapport à la mort, hein, aussi très très présent dans tout ce que tu fais. Voilà.
Ce rapport à la mort, et dans Orphée, ce rapport aussi aux effets spéciaux quand même assez...
poétique.
Assez poétique et assez fragile. Ouais. J'adore ce film, effectivement.
Orphée, donc le film de Cocteau avec les anges motocyclistes,
ouais.
La traversée
et
du miroir.
Et le miroir avec les gants MAPPA.
Et la Belle et la Bête, vous avez un rapport fort avec le cinéma de Cocteau?
Surtout avec ce film-là, avec Orphée.
Mmh, sa géographie impossible, ouais. Puisqu'on se souvient que Jean Marais rentre par des portes, sort par d'autres portes.
C'est génial.
Et qui absolument explose la topographie, ça n'existe pas.
Non, et puis la poésie de la langue aussi, mmh. Qui ressemble à mon oraison funèbre. Mais que,
le Gainsbourgien aussi.
Ouais.
Céline.
Ben justement, on parle cinéma. Quel rapport vous avez-vous au cinéma? Est-ce que je crois que vous écoutez surtout plutôt que vous ne regardez, puisque vous avez quand même ces collaborations régulières que vous aimez faire avec des réalisateurs pour vos clips. Il y a Bertrand Mandicot qui est là à côté de vous, mais il y en a d'autres aussi. Claire Burger, dont vous avez fait aussi la bande originale. Donc on a l'impression qu'il y a une sorte de va-et-vient comme ça avec le cinéma. Et vos oreilles.
Ouais, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est très récent que je fasse du score ou de la musique de théâtre, etc. Ça a que quelques années, quoi. Mais de plus en plus, ça m'intéresse. Et c'est vrai que je suis assez sensible à la musique des films. Par exemple, j'adore la musique de Mika Levy pour les films de Glazer. J'adore Wendy Carlos. Donc,
Wendy Carlos, on peut en dire un peu plus. C'est William Carlos William, devenu
ouais,
Wendy Carlos, et devenu avant mondialement célèbre avec la musique d'Orange Mécanique.
Ouais. Et de Shining.
De Shining. Et,
qui a aussi popularisé le synthétiseur Moog, donc, qui a transformé ce synthétiseur en quelque chose d'un peu plus accessible au public.
On était à l'époque, donc, dans les années 70, personnage pionnier sur tous les plans, on peut le dire.
Ouais, ouais. Du synthé aussi, en tous les cas.
On va terminer avec donc le dernier volet de l'univers de Rebecca Warrior, Compromat, le goût des... Ah, mais avant, j'allais oublier, bien évidemment.
Oh, bon, on pouvait juste continuer sur ces histoires de collaboration. J'ai en tête, par exemple, le clip de Nicolas Mehdi du morceau Auf Wiedersehen dans l'album Monument Ordinaire de Mansfield Tia. Et je vous propose d'écouter juste l'introduction, juste avant la musique.
Sorcière, païenne, libertine, criminelle, bâtarde, amoureuse. Mes filles, voici venue l'heure sacrée de vos vœux, celle du rachat de votre âme par l'obéissance, le silence, la chasteté.
Non !
Non à la chasteté, mais ça c'était une voix d'abbesse médiévale. C'est vrai que vous êtes grande amatrice de Au nom de la rose.
Ah oui, c'est vrai.
Bah oui, on sait
oui.
tout ici. Vous
ouais,
savez.
Vous savez tout. J'adore Jean-Jacques Hano.
C'est toi.
C'est moi, ouais.
Mais moi je me disais que si vous dites non donc au silence, à l'obéissance et à la chasteté, vous dites oui à quoi?
Alors c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Nicolas Mehdi.
Parce que c'est ce fameux principe de collaboration
avec un
réalisateur.
Moi j'ai écrit le morceau avec Carla Auf Wiedersehen, et ensuite on a refilé le bébé au réal, qui ensuite a carte blanche. Et Nicolas Mehdi est parti dans un trip complètement comme ça, avec des cathédrales, des nonnes, des vilaines nonnes.
Et ce qui donne une tonalité complètement différente à la chanson.
C'est vrai. C'est vrai.
Quelque et Bertrand a plus politique.
Bertrand a fait la même chose quand il a fait notre clip, parce que il est parti complètement sur une histoire qui n'avait rien à voir, et en fin de compte, c'était génial pour Nimande. Parce que au début, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit mais c'est pas du tout ça que je racontais. Et en fin de compte, en voyant le clip, ça fait prendre une autre dimension à ce que j'ai raconté, et c'est là où je trouve que la collaboration avec les artistes visuels est assez géniale.
Oui, parce que tu nous autorises à interrompre la musique,
il le faut, mais
ajouter des mots.
Voilà, le goût des cendres, le groupe Compromat, donc formation, troisième volet, on peut le dire, de votre univers, cette fois germanique, Rebecca Warrior.
Oui, germanique sur le premier album, mais pas sur le second.
On peut dire quelques mots du futur album?
Bien sûr, il va sortir en janvier, et le premier single va sortir bientôt, là, en octobre. Et qu'est-ce que je peux dire? En fait, je peux dire quand même qu'il est très très influencé d'Orphée, de Cocteau. Donc voilà, il parle de ce chemin qu'on parcourt pour aller d'un royaume à un autre, donc du royaume des vivants au royaume des morts, et des routes à prendre.
Et nous en reparlerons. Chronique maintenant dans Mauvais Genre. On commence bien sûr avec l'almanach de l'étrange de Céline Duchesnay.
Au royaume des filles poilues et fières de l'être, Esther Calixte Béa est la reine. Sous le nom de Queen Essie, cette artiste québécoise de 27 ans est une activiste de la pilosité corporelle qui a fait de ses propres poils un combat, une fierté. Et c'est avec une série d'autoportraits intitulée « Lavande » qu'elle s'est fait connaître en 2019, posant dans une robe qu'elle avait créée, mettant en valeur la pilosité de son torse. Les photographies, mises ensuite sur les réseaux sociaux, lui avaient valu de nombreux encouragements et étaient même devenues virales. On l'écoute au micro de Denis Lévesque sur TV Nouvelles en novembre 2019.
En fait, j'avais du poil depuis que j'avais 11 ans. Et je me suis dit, tu sais, pour moi, c'était comme si j'étais dans une prison parce que j'avais jamais vu autre femme qui avait du poil sur la poitrine. Je savais que dans cette société, c'était pas bien vu, c'était laid, tu comprends? Donc, à 22 ans, je me suis dit, là, je suis tannée de toujours cacher ma poitrine, toujours vouloir monter mon chandail, toujours avoir peur que quelqu'un le voit. Puis j'ai décidé de faire un projet à travers ça qui s'appelle Lavande. En fait, c'est un projet que j'ai fait pendant l'été. Ça a duré un mois. J'ai créé une robe qui montrait ma poitrine.
Même en évidence. Le poil, on ne peut pas le voir. Là. Ouais. Si je regarde, on le voit, là, le poil.
Oui, c'est ça. Donc, ça montrait ma poitrine. Puis j'ai décidé d'aller au parc et je suis allée prendre des photos. Puis c'est ça que j'ai fait.
Depuis 5 ans, elle s'exprime sur ce thème avec beauté et joie à travers différentes formes d'art, que ce soit la peinture, la photographie, les textiles, les installations ou l'écriture. Son travail met en valeur des femmes qui portent fièrement leur pilosité, que ce soit sur les bras, les jambes ou le torse, comme elle. Et ses peintures, aux couleurs vives, représentent des femmes noires aux poils glorifiés, chevelues, poilues, velues. Les femmes semblent se mouvoir dans un monde où la nature est reine et le rasoir banni. L'artiste, elle-même d'origine haïtienne, et ivoirienne, a inventé une ethnie fictive qu'elle peint dans ses tableaux, une ethnie surnommée Fieté Souhou. Fieté signifiant fierté en créole haïtien et Souhou divine en guéré ivoirien. Le 14 novembre prochain, elle va exposer à Montréal à la Maison de la Culture Janine Suto, Bienvenue dans le Jardin, une exposition solo où l'on retrouve son ethnie fictive dans une bonne trentaine d'œuvres qui questionnent les différents héritages de l'artiste, l'influence de la colonisation dans la construction de son histoire familiale et de son identité. Et une BD vient d'ailleurs de sortir sur ce thème de la pilosité féminine, la haine du poil, dans la collection Sorcières des éditions Cambourakis. Les autrices Juliette Mancini, Sarah Piazza et Alexia Chandon-Piazza racontent, sous forme de petites scénettes, différentes expériences autour des poils, afin de comprendre pourquoi les poils féminins sont combattus et pourquoi ils sont trop souvent associés à la saleté, la laideur ou la honte. Elles reviennent sur le lien entre poils, sauvagerie et sexualité, le rôle du porno et du sexe glabre dans nos imaginaires, l'influence de la mythologie dans nos modes de pensée, l'épilation comme envie de dompter un sexe féminin jugé trop débordant. Bref, c'est une bande dessinée réjouissante et instructive dans la droite lignée du body positive que la reine poilue Queen Essie ne renierait certainement pas.
Merci Céline. Rebecca Warrior, réaction?
Oui, non mais j'adore les poils, hein, cela dit.
Eh ben alors, voilà. Vous avez une réaction.
Bon, bah, l'essentiel est là. Un mauvais genre, on n'a pas beaucoup de respect. La preuve en est votre chronique Esther Teilhard sur le livre d'Emmanuel Lambert paru chez Stock.
Tout à fait, François. Aucun respect d'Emmanuel Lambert raconte l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui débarque à Paris dans les années 90 en tant que stagiaire dans un institut d'archives qui n'est pas nommé mais que l'on reconnaît aisément. Sa mission est la suivante, trier, classer, ranger, revoir en détail la vie d'Alain Robbe-Grillet. Ses écrits, ses interviews, ses voyages, dans le but d'une exposition finale sur le pape du nouveau roman. Mission ingrate, certes, mais on lui met, si vous me permettez l'expression, la tête dans le lard. Ce n'est pas qu'une mission carton et feuilles volantes. La narratrice doit se rendre en chair et en os dans l'antre de l'ogre, le château en Normandie d'Alain Robbe-Grillet et sa délicieuse femme Catherine, baronne du sadomasochisme. Elle prend son petit tringard Saint-Lazare, se rend dans le château, est accueillie par Alain Robbe-Grillet en personne qui lui sert une liqueur sibérienne, et après l'avoir rapidement sondé, lui reproche de ne pas avoir un gramme de perversion dans le sang. Et puis il y a Catherine Robbe-Grillet. Ses yeux bleus qui, quand il vous regarde, vous avalent, sa voix de petite fille lorsqu'elle est maîtresse de maison, de contralto lorsqu'elle tient le martinet. Sa grandeur, sa majesté. Seulement, il y a un problème. C'est la narratrice. Elle est bien trop normale. C'est Catherine Robbe-Grillet en personne qui le lui dit. Elles sont en face l'une de l'autre, au château, assises sur le canapé, et Catherine lui annonce avec sa voix sucrée « Vous êtes somme toute très normale ». Remarque anodine qui, chez la narratrice, aura l'effet d'une bombe. C'est certain qu'elle est tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Elle a 20 ans, elle aime les garçons de son âge, elle n'aime pas les filles, elle n'aime pas le fouet. Elle est peu de choses face au couple Robbe-Grillet. Ce qu'ils prônent, ce qu'ils représentent, leur appétit général, leur liberté sexuelle absolue. L'irrévérence littéraire de Alain Robbe-Grillet sont rien à foutre des institutions, des conventions. Il préfère passer la soirée avec Nabokov, choisir la couleur des sequettes de sa femme et se goinfrer de gigot d'agneau que de recevoir la Légion d'honneur. La narratrice ne comprend pas ce monde parce qu'il n'est pas le sien. Mais elle regarde. Elle comprend ce que le couple Robbe-Grillet incarne. Elle devine que les pratiques sadomasochistes de Madame Robbe-Grillet sont d'utilité publique, que le service public du sadomasochisme, comme elle l'appelle, est réel. Qu'il se passe quelque chose ici, dans ce château, dans ces cartons d'archives, qu'on parlera de cette époque. Car oui, ce livre est sur un autre temps, une autre époque. Apostrophe basson plein, Guy Georges rôde dans la ville. Si les femmes ouvrent leurs clapets, alors elles n'ont aucun respect. Alain Robbe-Grillet publie un roman sentimental, couverture sous cellophane pour ne pas être feuilleté en librairie. Délire érotique sur jeune fille prépubère. Un autre temps, oui.
Merci Esther pour cette chronique donc d'aucun respect d'Emmanuel Lambert. C'est chez Stock. Quelques informations prévisibles sur le prix SAD 2024 qui vient d'être remis ce soir même à Paris. La lauréate du prix SAD, c'est Pauline Marie pour L'art assassin sur la figure de l'artiste criminel chez Rouge Profond. Également la prix SAD fiction Félicia Viti, la fille verticale chez Gallimard. Le livre d'art, le prix SAD livre d'art Yoshifumi Hayashi, c'est aux éditions Arsenic Galerie. Le manga sadien, eh bien cette année, c'est Miyanishi, Lyrica, traduit par Aurélien Estringer aux éditions IMHO. Et puis évidemment, dans la catégorie histoire littéraire, ce sont les écrits érotiques de femmes, nouvelle histoire du désir de Marie de France à Virginie Despentes, c'est aux éditions Bouquins. Et puis dans la catégorie DVD, c'est Salon Kitty, Tinto Brass aux éditions Sidonis. Patrick Cardon et Christophe Beer ont une sorte de prix d'honneur. Je me pose la question, les gens du prix SAD écoutent-ils mauvais gens? J'en ai bien l'impression, puisque tout cela, ce sont des sujets ou des invités qui sont venus dans votre émission préférée. Merci Rebecca Warrior.
Merci à vous tous.
D'avoir été ce soir l'invité de mauvais gens. On sera attentif à votre prochain disque, votre prochaine donc, production inspirée par Cocteau et Orphée. Merci Bertrand Mandico, là aussi, à très vite.
Mais avec plaisir.
Merci Céline et merci Esther Teillard et puis donc toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Grégory Wallon, Claire Poussignon, Céline Duchesnet, Claire Martin-Dugard, Esther Teillard, Bertrand Mandico et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi Mauvais Genre. La semaine prochaine, nous recevons Romain Slocon pour son roman sur le docteur Petiot paru aux éditions Robert Laffont.